file mes pieds.
Ben oui, saluer Catherine Bachand qui a fait ses débuts à l'antenne de Boulevard 102.1 ce matin, qui a doublé les effectifs de l'équipe du Point de Max.
Max se sent surveillé et entouré pour son show sans blague. Ces deux-là font vraiment un bon duo.
J'ai très hâte de porter attention dans les prochains jours, puis j'espère que vous autres aussi, ça vient compléter une programmation où il y a énormément de femmes talentueuses. On est chanceux, on est choyés et des fois on me demande c'est quoi de travailler avec une équipe de filles.
Demandes-tu vraiment ça?
Oui. Il y a beaucoup de gens qui me posent constamment la question, puis je réponds, ben c'est exactement comme être d'un vestiaire de hockey de gars. À un moment donné, les filles vont te parler de le brassière trop serré ou trop slack, des histoires que tu veux pas savoir sur le choix de vêtements, le choix de shampoing sec et ainsi de suite.
C'est la vraie vie.
C'est la vraie vie, exactement. Mais non, pour vrai, on est chanceux, là. Vous faites le tour de toutes les personnalités féminines qui sont à l'antenne. Audrey, Véro, Antonine, Pascal et maintenant Catherine qui a plus de 25 ans d'expérience radiophonique à Québec. Parce que je sais que Marceau s'amusait la semaine passée à spéculer puis il amenait plein de noms de Montréal. Puis je faisais non, ça prend du monde de Québec qui vivent avec nous autres, qui vivent notre réalité. Puis on a le droit d'être chauvin. Moi, je pense que les meilleures émissions de radio et les meilleures stations de radio sont pas à Montréal, sont à Québec. Fait qu'aussi bien prendre du talent qui déjà évolue dans ce qu'on va appeler la grosse ligue. Je sais que ça fait douchebag, mais je le crois fondamentalement. Moi, je suis juste un imposteur. Là, je parle des autres, là. Du monde excessivement talentueux, pas mal plus que dans d'autres grandes régions radiophoniques.
Je trouve que t'as raison.
Ouais, ben, écoute.
On a
le droit de le dire.
Ben non, mais puis moi, je suis vraiment fière de cette acquisition-là. Je suis fière qu'on on se partage les talents aussi. T'sais, tantôt, on riait bien de Gab avec sa reste dans la famille. Mais autant... mais non, mais c'est vrai, Véro est rendu l'autre bord sur l'heure du midi au week-end 91.
D'ailleurs, elle est partie en vacances seulement une semaine après le début de sa nouvelle émission. Ouais, ça fait marchand, hein, un petit
moi,
peu.
Moi, je trouve qu'on devrait déchirer nos chemises.
En même temps, je te ferai remarquer que je suis l'animateur qui a le plus d'ancienneté ici, là, à Boulevard 102. Parce que ma chronique dure depuis avant que toutes vous autres vous arriviez.
Pour vrai?
Oui.
T'as faisais avec qui?
Je faisais avec Martin Evrel, puis notamment.
Bon.
Puis je l'ai fait avec plein d'autres, puis ça a toujours poursuivi malgré les émissions. Mais on s'amuse.
C'est
pas une critique que je vous fais.
Je respecte le droit d'Aînès. On va t'appeler Monsieur Marino.
Puis quand Boulevard est devenu parler avant de devenir parler, puis de revenir parler, j'étais là aussi avec Stéphane Gasse dans le temps. Ouais.
T'as-tu participé au lancement de Boulevard dans le sous-sol d'église?
Oui.
Oui? OK.
Oui,
j'ai plein de questions à te poser.
J'ai rien vu.
Je suis fasciné par ça, pour plein de raisons. Bon, assez niaisé, 16h36. Est-ce que l'heure est grave? Puis, je veux pas jouer à l'alarmiste, mais moi, les derniers tweets de Donald Trump m'ont profondément troublé, autant sur l'état mental du bonhomme que sur l'agressivité, le ton, et surtout... Il a l'air d'un gars qui bluffe, mais qui n'a plus de cartes dans son jeu. Des fois, un enfant, ça devient agressif hein, quand il n'y a plus d'arguments à donner. Puis là, finalement, « Oh ben allez tout chez Liab. » J'ai un peu lu ça dans les réactions d'ultimatum de Donald Trump en fin de semaine.
Mais je pense que les gens ont peur de son instabilité mentale.
Oui. De plus en plus.
Vraiment.
Et c'est des mots et des engagements d'une violence qu'on n'aura jamais vue dans nos démocraties modernes. Puis moi, c'est ce qui me trouble. Là. Je veux dire, annoncer qu'une nation sera complètement effacée de la carte de façon irrémédiable ou d'avoir un président des États-Unis qui s'exprime à grands coups de fucking en parlant aux Iraniens d'ouvrir le canal. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses troublantes là-dedans. Mais au-delà de Donald Trump, c'est quoi la situation sur le terrain présentement? Et est-ce qu'on vit un moment charnière dans ce conflit-là? On va en parler avec Éric Sauvé, vétéran des Forces armées canadiennes et consultant en sécurité et défense. Salut Éric, comment ça va?
Ça va bien, toi?
Ça va très bien, merci. Éric, je m'inquiète de Trump, je m'inquiète de nos démocraties, mais au-delà de ça, on en est où aujourd'hui dans le conflit avec l'Iran, alors qu'il y a un deadline qui existe, qui est pour quoi? 20 heures ce soir?
Écoute, par où commencer, c'est vraiment complexe. T'as raison de le dire, il y a un deadline, il y a un ultimatum à 8 heures ce soir, donc dans 3 heures et quelques, on va savoir si Trump bluffait. D'entrée de jeu, je pense que Trump bluffe.
Encore?
Je croirais que qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines heures, c'est qu'il va annoncer qu'il y a eu des développements positifs avec Téhéran. Est-ce que c'est vrai ou non? Permettez-moi d'en douter, mais ça lui permet un peu de sauver la face, de dire « ma pression a fait en sorte qu'ils veulent venir à la table des négociations ». On va repousser un autre ultimatum parce que c'est quand même pas le premier.
Non.
Mais la virulence de ce dernier ultimatum a été dénoncée dans le monde entier.
Mark Carney, notre premier ministre, a été très poli en disant « Trump devrait se garder une petite gêne ». Je pense exactement la même chose, mais avec des mots beaucoup plus crus. Sur le terrain en Iran, ça a été des moments difficiles, je pense, pour les troupes américaines.
Mais ça a été très difficile à partir de jeudi dernier. Ils ont eu un F-15, un avion biplace qui s'est écrasé. Rapidement, ils ont fait une opération de recherche et sauvetage de combat, qu'on appelle.
Oui.
Ils sont allés chercher le pilote de jour, donc c'était quand même extrêmement risqué. Il fallait qu'ils volent à basse altitude de jour. Ils ont essuyé des tirs ennemis, justement, mais ils ont sorti le pilote rapidement. Le problème, ça a été la deuxième personne. L'officier responsable des armes qui s'assoit à l'arrière, qui contrôle les armes, qui contrôle les appareils de collecte, a été éjecté à quelques kilomètres, était blessé et était dans un terrain montagneux. Ils n'ont pas réussi à le trouver directement. Alors, il a fallu qu'ils lancent une deuxième opération, mais à ce moment-là, tout le régime iranien savait qu'il y avait un membre d'équipage. Donc, ils ont envoyé des forces pour essayer de le trouver. Puis ça a été justement à qui va aller le chercher en premier. Là.
Et là, qui, est-ce qu'on l'a retrouvé, lui?
On l'a retrouvé, je pense qu'il a été comme un peu moins de 48 heures sur le terrain.
Okay.
On sait qu'il était blessé à la cheville. On sait qu'il pouvait se déplacer avec difficulté. Il est monté jusqu'à 7000 pieds d'altitude dans les montagnes. Dans son kit de survie qui vient avec le siège d'éjection, il y avait un pistolet, il y avait une radio et il y avait une balise de géolocalisation. Mais quand tu tombes dans le territoire ennemi, si tu utilises ta balise ou ta radio, l'ennemi peut aussi savoir où tu te trouves. Donc, il a utilisé son entraînement, il a trouvé une crevasse, est allé se cacher et a envoyé un signal radio, mais extrêmement rapide, parce que ça permet après ça de géolocaliser en faisant une triangulation avec les tours et de le trouver. Mais le problème, c'est que l'Iran aussi a pu avoir ce signal-là. Alors, ce que les Américains ont fait, c'est qu'ils ont envoyé énormément d'avions de combat pour bombarder les approches du pilote et envoyer, selon ce qu'on comprend, peut-être environ 100 forces spéciales dans deux avions. Et puis les avions avaient à l'intérieur des hélicoptères biplaces qui sont allés chercher le pilote. Donc, littéralement, les avions transportaient les hélicoptères. Ils ont ramené sur le terrain d'atterrissage qu'ils avaient utilisé. C'est une ancienne terre agricole. Et là, c'est difficile à croire. Soit qu'ils ont reçu des tirs, ou soit que, comme ils disent, les avions se sont enlisés dans le sable, ce qui est possible. Ils ont dû faire venir trois autres avions pour évacuer tout ce beau monde et détruire les deux C-130, donc les Hercules canadiens, mais faits pour les forces spéciales, donc 100 millions de dollars chacun, et de 2 à 4 hélicoptères aussi qui ont été détruits directement sur place avant l'évacuation.
Fait que si on regarde le bilan de cette opération-là, j'ai l'impression qu'il y a comme deux façons de le voir, parce qu'il y a eu du cafouillage, oui, mais en même temps, la rapidité d'intervention puis le fait qu'on a réussi à sauver la vie des deux pilotes impliqués puis des autres personnes qu'on a évacuées, bien, ça montre une force puis une rapidité d'intervention qui peut être vue comme étant un signal positif pour la suite des choses, peut-être.
C'est certain que c'est vu comme un succès, et c'est un succès dans le sens qu'ils sont allés chercher le pilote qui était là, ils ont sauvé tout leur monde, et la philosophie de laisser aucun homme derrière, aucune personne derrière, c'est extrêmement important pour tout le monde qui combat, c'est de savoir que tu ne seras pas laissé derrière les lignes ennemies, donc le message est important pour le moral de tout le monde. Oui, ça l'a coûté dans les centaines de millions, ça l'a mis des gens en danger, mais il faut leur donner aux Américains qu'ils sont entraînés pour ça, prennent ça au sérieux. Et même nous, si on combattait dans une coalition avec les Américains, et la même chose nous arriverait, on cognerait à la porte des Américains en disant « Vous êtes les seuls à avoir le package pour aller chercher notre personnel. »
Éric, on a vu depuis le début de son deuxième mandat que Trump est un chien qui aboie particulièrement fort, mais qui mord pas souvent. Des bluffs avec les tarifs, il y en a eu énormément. Des menaces qui n'ont pas été menées à exécution, il y en a eu beaucoup aussi. Si l'Iran décide, suite aux ultimatums violents de Trump, de rester sur leur position, c'est quoi la stratégie politique de Donald Trump pour la suite des choses? Il me semble que c'est pas évident. On a l'impression que lui, c'était en 48 heures, c'est réglé, ça c'est le plan A, puis qu'il n'y avait pas de plan B.
J'ai l'impression que l'Iran peut ne rien faire jusqu'à 8 heures ce soir et quand même voir Donald Trump prendre le micro et dire « il y a du développement positif ». Parce que c'est pas parce qu'il y a un signal positif qu'il va le dire. Ceci étant dit, il y a quand même un risque qui est assez minime que Trump pense utiliser l'arme nucléaire tactique. Là, on parle pas d'une bombe à la Hiroshima ou Nagasaki pour détruire une ville, mais c'est quelque chose que les Américains ont pensé utiliser contre la Corée du Nord, en fait, que Trump a pensé utiliser contre la Corée du Nord en 2017, et ses aviseurs, lui, l'ont finalement convaincu de ne pas le faire. Le risque avec Trump, c'est qu'il veut absolument rentrer dans l'histoire, ouais, pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Mm-hmm. Puis la mauvaise raison, ça serait de dire « j'ai fait plier l'Iran et je suis le premier depuis 1945 à avoir lâché une bombe atomique ».
Mais à partir du moment où on utilise le nucléaire, moi, j'ai l'impression qu'au niveau international, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent se passer très rapidement. J'ai peut-être vu trop de films, je ne sais pas, Éric, rassure-moi ou inquiète-moi, là.
Je ne peux pas te rassurer sur ce point de vue-là. L'arme atomique, c'est comme la dentifrice qui est sortie du tube. Uh-huh. On ne peut plus la faire rentrer.
Ouais.
Ceci étant dit, pendant toute la guerre froide, on avait ce qu'on appelait, j'adore en anglais le terme, la doctrine MAD. Ça veut dire la doctrine de destruction mutuelle assurée. Okay. C'est-à-dire que si un côté frappe, l'autre côté va avoir des capacités résiduelles et va te détruire de toute façon. Donc, il ne faut jamais l'utiliser. Avec Trump, le calcul a changé. Il veut impressionner. L'arme atomique, on peut faire le même dommage avec une bombe de 10 000 livres ou quelques bombes de 10 000 livres. Mais l'arme atomique, c'est la terreur que ça amène, ouais, par la suite. Puis ça donne après ça une légitimité à l'Ukraine de l'utiliser, pardon, à la Russie de l'utiliser en Ukraine,
ouais,
ou à d'autres pays de le faire. Et puis là, le dentifrice est vraiment sorti. Il n'y a plus aucune possibilité qu'il rentre dans le tube.
Qu'est-ce qui se passe en Iran présentement? On parle beaucoup des États-Unis, évidemment, puis Trump prend beaucoup de place, mais depuis le début de ce conflit-là, qu'est-ce qui se passe physiquement en Iran?
Il y a une partie du peuple iranien qui voyait d'un bon œil les frappes américaines. Mm-hmm. On savait qu'il y avait deux porte-avions qui s'approchaient, on savait qu'il y avait des troupes massives, et les gens étaient tellement désespérés de ne pas être armés, d'en avoir assez, qu'ils se disaient « frappez les gardiens de la révolution, frappez l'ayatollah
ouais. ».
Mettez-les à terre et puis peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer. Dès le premier jour, les Américains ont frappé une école, ont tué 165 fillettes. Le message de libération, il n'était pas là du tout. On frappait l'avenir des Iraniens. Mmh. Ensuite de ça, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des centres de recherche qui ont été frappés, des universités, des gymnases. On ne parle plus des gardiens de la Révolution, là. Donc, c'est difficile de savoir qu'est-ce que les gens pensent. Il y a encore des gens qui réussissent à communiquer avec des gros médias comme la BBC, New York Times. Ouais. Et les opinions sont mitigées. De moins en moins de gens croient à la libération parce qu'eux n'ont pas l'information qu'on a. Hein. Faut comprendre qu'eux ont très peu d'informations. Mais de plus en plus de gens commencent à se dire c'est une force d'envahisseur. Et puis j'espère que le régime va faire quelque chose pour les arrêter parce que